Bonjour à chacun d'entre vous. Il y a quelques mois maintenant, ça passe tellement vite, j'avais commencé une série de méditations sur la parabole dite du fils prodigue. On pourrait l'appeler d'ailleurs aussi celle du père prodigue, parce que le mot prodigue a, de façon assez surprenante, deux sens. Le fils prodigue, ça veut dire le fils dépensier, le fils qui gaspille. Et le père prodigue, c'est prodigue généreux, quand on prodigue des conseils, généreux de bonté. Donc, appelez cette parabole comme vous voulez, soit celle du fils prodigue ou soit celle du père prodigue. Ça n'a pas d'importance. Cette parabole est extraordinaire. Et nous allons la relire maintenant pour nous la remémorer. Elle se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, et nous lirons à partir du verset 11 jusqu'à la fin de ce chapitre 15. Jésus parle en parabole, il raconte des histoires, et il s'adresse aux pharisiens, à ceux qui le critiquaient. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait. Est parti pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays qu'il envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi ici, je meurs de faim. Je vais partir, j'irai chez mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves, apportez vite la plus belle robe, mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons, faisons la fête. Car mon fils que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu, il a été retrouvé et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. » Mais il se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père, « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as abattu le veau engraissé. » Le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère que voici était mort, et il a repris vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. Je ne sais pas si on peut projeter le tableau de Rembrandt intitulé « Le retour du fils prodigue ». Merci. On voit que Rembrandt a mis la lumière sur le fils et le père qui sont au premier plan. Et un peu vers le fond, il y a une série de personnages et celui qui se trouve à votre droite, on pourrait dire qu'il est raide comme la justice. Le père ouvre ses bras pour accueillir l'enfant, il l'entoure de ses bras, de ses deux mains, dont une main est une main de travailleur et l'autre est plutôt une main féminine, une main compatissante. Le fils a presque perdu une sandale, il marche presque nu-pied. Ses habits sont déchirés, il est à genoux, il demande pardon. Merci Pierre-Yves, on peut éteindre. Nous avons tous besoin de nous comparer à ce fils qui un jour a cette parole extraordinaire, il rentre en lui-même et il va dire « J'ai péché contre le ciel et envers mon Père ». J'ai péché. C'est le premier pas de sa conversion. Et il va retourner chez son père. Et je crois qu'on a tous besoin de prendre conscience, un jour, un moment de notre vie, que nous avons besoin de demander pardon à Dieu de nos péchés, de faire demi-tour, c'est ce que veut dire le mot convertir, et de retourner à Dieu. Et puis nous sommes tous aussi peut-être comme ce fils aîné qui râle, qui n'est pas bien content, qui lui aussi est raide comme la justice. Je pense qu'on considère souvent que la religion est raide comme la justice. La religion, c'est une frappe à ceci, une frappe à cela. C'est la morale, ce sont des obligations. Alors, il y a un temps où on était un peu obligé de venir au culte pour les messieurs avec une cravate. Heureusement, aujourd'hui, on vient sans cravate. Alors, bien sûr, j'ai mis une cravate ce matin. Ma femme m'a dit, mais pourquoi tu as mis une cravate ce matin? Parce que tu prêches. Je lui ai dit non, c'est parce que je veux réchauffer ma voix, parce que j'ai quelques problèmes de voix quand je parle, alors la cravate, ça réchauffe. Et puis on peut venir aussi en jean, on n'est pas obligé de venir en costume. Et puis on peut taper dans les mains quand on chante. On peut lever les mains. Voilà, c'est la liberté, la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Mais souvent, la religion a donné l'image de la raideur, de la discipline, des obligations. Alors, Jésus nous montre dans cette parabole. Et il s'adresse à des gens raides, les pharisiens. Il va leur montrer qui est Dieu, qui est véritablement Dieu. Et si Jésus ne présente pas le fils aîné de façon sympathique, il n'échappe à personne qu'il présente le Père de façon étonnante. Et si nous ne réagissons pas à l'attitude du Père de la parabole, c'est que nous lisons la Bible comme on lit un journal d'annonce, c'est-à-dire pour y trouver ce qui nous intéresse et laisser de côté tout le reste. Riche propriétaire terrien, le père ne garde pas sa richesse pour lui. Il la partage entre ses deux fils, à la demande de son fils cadet, sans même poser la moindre question, alors qu'il est attaqué dans sa dignité de père. Ça ne se fait pas de demander son héritage du vivant de son père. Et il le fait équitablement. Il partage entre ses deux fils. Alors, nous pensons peut-être qu'il s'agit là d'une faiblesse. C'est un père faible. C'est un père laxiste. Un peu comme lorsque la justice quitte sa raideur pour devenir humaine. C'est du laxisme. Qu'est-ce que c'est que ce père qui répond sans sourciller aux exigences de son fils dont il se doute bien qu'il va vite dilapider son héritage. Un père laxiste, faible, aveugle, c'est plutôt un père qui attend que son fils revienne, inlassablement. Mais là aussi, n'est-ce pas trop d'égard pour ce fils indigne? Un père qui court vers son fils et qui lui ouvre les bras tout grands. Mais n'est-ce pas trop? N'est-ce pas exagéré? Mais pour le fils coupable, quelle surprise! Et pour le père, quelle joie d'avoir retrouvé ce fils qu'il croyait perdu à jamais. Un père qui sait faire la fête pour se réjouir. Pas un mot de reproche. Son fils est retrouvé, il faut se réjouir tout de suite, immédiatement, sans attendre. A-t-il oublié les autres, et en particulier ce fils aîné qui trime encore dans les champs au moment où la fête commence? Alors si nous sommes le fils cadet, nous sommes surpris d'avoir un père qui nous accorde tant d'importance que nous ne méritons certainement pas. Si nous sommes le fils aîné, nous pensons que c'est de la déraison et même de l'injustice. Et si nous pensons que Jésus nous suggère que ce père, c'est Dieu, alors nous n'y comprenons plus rien. Plus rien, parce que c'est vrai, Dieu est bon, Dieu est généreux, mais Dieu est aussi juste. Et il est celui qui punit le coupable, il est celui qui donne à chacun selon ses œuvres. Oui, mais c'est aussi un Dieu qui aime, un Dieu qui pardonne, et un Dieu qui ne nous punit pas pour nos fautes. En un mot, c'est un Dieu de grâce, et c'est bien ce que les pharisiens avaient oublié et que Jésus va leur rappeler avec cette petite histoire. Un père surprenant qui provoque l'indignation de son fils aîné. Alors autant il est facile de s'identifier avec le fils cadet, ou même avec le fils aîné, jusqu'à un certain point, bien sûr. Nous n'avons pas tous vécu dans la débauche, loin de là. Autant il nous est difficile de nous identifier avec le Père. Pourquoi? Parce que la barre est trop haute. C'est trop. Et quand c'est trop haut, c'est impossible. Pouvez-vous vous comparer? Alors j'avais choisi comme exemple d'abord Armstrong, vous savez, le cycliste. Puis j'ai dû l'abandonner parce que ça va pas. Alors j'ai trouvé un autre exemple. Renaud Lavillenie, ça vous dit quelque chose? Renaud Lavillenie, où suis-je allé pêcher ce type-là? Oui, bravo. Voilà, le saut à la perche. Il a franchi il y a pas longtemps, mais ça n'a pas été homologué, 6,07 m. Et le champion du monde, c'est un certain Sergueï Babka qui l'a franchi à 6,15 m. 6,15 m, plus haut que le plafond de cette chapelle. 6,07 m. La barre est haute. Qui pourrait se comparer à lui? Allez, on va vous donner une perche. Allez-y, montrez ce que vous savez faire. Oui, la barre est trop haute pour Dieu, mais Jésus nous demande de prendre exemple sur Dieu. Dieu nous est présenté comme un modèle à suivre. Soyez donc parfaits, dit Jésus. Parfait. Alors on dit, le mot grec ne veut pas forcément dire parfait. Ça veut dire celui qui veut peut-être atteindre le but. Comme votre Père céleste est parfait. Trois mots peuvent caractériser Dieu dans cette histoire. Amour, pardon, générosité ou encore réjouissance, fête. L'amour. Dieu m'aime tel que je suis, avec mon caractère, avec mes péchés, avec mes manquements, avec mon passé, que je ne peux changer. Il ne m'aime pas, et quand je dis « je », mettez « je » à votre place, hein, mettez aussi « je » pour vous. Hein. Il ne m'aime pas pour mes qualités, pour mes performances. Il m'aime parce qu'il est mon Père et qu'il a fait de moi son enfant par grâce. Il m'aime passionnément, à la folie. Il m'aime d'un amour qui ne recule devant aucun sacrifice, ni même celui de son Fils sur la croix. Connaissez le verset le plus connu qui résume toute la Bible, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour qui est mis en avant. Et je ne peux pas comprendre ni pourquoi, ni jusqu'à quel point Dieu m'aime. Un cantique dit « Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. » Oui, je ne sais pas. Et Paul écrit aux Éphésiens « Plongez vos racines dans l'amour, soyez solidement construits sur cet amour, alors vous serez capables de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. » Et un autre cantique nous dit « L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces. Même en abîme, il nous atteint. » Dans un petit livre, tout petit livre, épuisé, je crois, mais qui a fait un peu, qui a été bien répandu, surtout dans l'évangélisation, qui s'appelait « Un seul chemin » dans les années 70. L'évangéliste, décédé aujourd'hui, Alain Choiquier, raconte qu'un chrétien se trouvait un jour pour son travail dans les bas quartiers de Paris. Pigalle, ça vous dit quelque chose. Il tendit un tract à une prostituée qui faisait le trottoir. Et il lui dit « Dieu vous aime, madame. » Celle-ci, étonnée, lui répliqua « Vous savez ce que je fais, vous pensez qu'il m'aime quand même ?»« Alors dites-moi pourquoi ?» Notre ami, surpris par la question, hésita quelques instants et lui fit cette réponse « Pour rien, madame. C'est pour rien qu'il vous aime. Avec moi, c'est d'ailleurs tout comme. » Oui, c'est tout comme pour chacun d'entre nous. Dieu est amour, nous dit l'apôtre Jean, c'est-à-dire que l'amour se trouve en lui-même, dans sa nature, en son essence, et non en ses sautes d'humeur ou en ses sentiments. Alors, sommes-nous conscients que nous sommes les bien-aimés de Dieu, que Dieu nous aime tant, chacun, personnellement? Et Jésus insiste sur cet amour de Dieu pour tous les hommes et en particulier pour les rejeter, les mépriser par les gens de religion. Si le père de la parabole scrute l'horizon et court à la recherche de son fils, s'il l'accueille si royalement, c'est qu'il l'aime tout simplement de cet amour incroyable. Et puis, Dieu est un Dieu qui pardonne. Là aussi, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Notre Dieu, dit Ésaïe, ne se lasse pas de pardonner. Psaume 103, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Alors, il nous faut bien l'avouer, nous avons du mal à pardonner. Et quand nous pardonnons, ne reste-t-il pas un peu de ressentiment au fond de notre cœur? Et la meilleure preuve que le pardon du Père de la parabole est total, c'est qu'il concentre son attention sur autre chose que sur le gaspillage de sa fortune. Il y a quelque chose, on pourrait dire quelqu'un, de bien plus important que sa fortune, c'est son Fils. C'est la relation qu'il a avec ses enfants. Il pense à sa relation retrouvée avant de penser au gaspillage de sa fortune, et c'est cela qui provoque sa grande joie. Son fils n'est pas ou n'est plus ce vaurien qui a gâché son héritage, mais il est le fils qu'il retrouve dans une relation d'amour comme jamais auparavant. L'occasion lui est offerte de lui dire et de lui montrer qu'il l'aime pour lui-même et non pour ce qu'il a fait. Et ce pardon s'exprime par la réintégration complète de ce fils. De quoi le fils avait-il besoin ? De remontrance ? Peut-être. D'être mis à l'épreuve ? Peut-être aussi. Mais avant tout, de retrouver sa dignité de fils, d'être mis en valeur. Il avait besoin de l'amour de son père et des siens. Et quand Paul nous dit que Dieu pardonne toutes nos offenses, c'est toutes nos offenses, et Dieu n'y revient pas. Paul écrit aux Colossiens, chapitre 2, « Il nous a fait grâce pour toutes nos fautes. » Alors serions-nous moins royalistes que le roi ? Jésus a raconté bien d'autres histoires sur ce sujet pour expliquer pourquoi nous avons besoin de pardonner à notre prochain jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est-à-dire constamment. Et ce père de la parabole nous montre ce que c'est que pardonner. C'est accueillir. C'est aimer, c'est faire la fête. C'est le frère aîné qui évoque la débauche de son frère, mais ce n'est pas le père. Alors c'est vrai que le fils n'était pas là lorsque son frère a prononcé ces paroles, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi ». Il ne les a sans doute pas entendus, mais peut-être que le serviteur les a rappelés, lui qui dit, qui met au courant le frère aîné qui rentre des champs et qui lui dit « Mais voilà pourquoi il a la fête dans la maison, c'est parce que ton frère qui s'est absenté là pendant longtemps est revenu et que ton père croyait mort. » Il y a quand même repentance du fils. Le père n'accueille pas un fils qui va continuer à vivre dans la débauche. Il accueille un fils qui se rend compte de ce qu'il a fait et qui, d'une certaine façon, demande pardon à son père. Mais le père ne le laisse pas terminer sa phrase. Il ne va pas l'accueillir comme un serviteur à la demande du fils, mais comme ce qu'il est vraiment un fils. Vous connaissez sans doute cette magnifique trilogie de Marcel Pagnol, mais aussi cette pièce de théâtre « La femme du boulanger ». Cette femme du boulanger a été infidèle et elle va revenir à la maison, penaude, en pleurs. Et le boulanger fait comme s'il n'avait pas remarqué son absence. Mais on sent que tout est faux dans ses propos. Et voilà que sa chatte, la chatte du boulanger, Pouponnette, un joli nom pour une chatte, revient après quelque temps d'absence. Alors avec des mots durs, qui en fait sont adressés à sa femme plutôt qu'à Pouponnette, le boulanger traite sa chatte de mauvaise fille qui est allée vivre une aventure avec Poupon, et qui revient parce qu'elle a faim. Eh bien, ce genre de pardon qui garde le ressentiment au fond du cœur, c'est pas ça le pardon de Dieu. Pardonner n'est ni culpabiliser le coupable, ni remuer le couteau dans la plaie. Pardonner, comme ce nom l'indique, c'est donner par-dessus. Passer par-dessus, c'est ne plus revenir sur le passé. La dernière caractéristique du père de la parabole, c'est la générosité. l'esprit de réjouissance. Et ce n'est pas la première fois que la Bible met en valeur l'esprit de fête et de réjouissance. Les pharisiens critiquaient Jésus en disant « C'est un homme qui fait bonne chère, un buveur de vin, un ami des péagers et des pécheurs. » Ça, c'est le point de vue des pharisiens. C'est peut-être pas forcément la réalité. C'est leur critique. Mais c'est vrai que Jésus savait accueillir tout le monde. Il savait manger et boire, faire la fête. Et la fête est bien présente dans l'Ancien Testament, avec des liqueurs fortes, des danses. Psaume 149, verset 3, qui loue ton nom avec des danses. Les noces de l'agneau représentent le moment festif de la rencontre de Jésus avec son Église. Et son Église, c'est pas du vent, c'est nous, c'est des personnes. C'est ceux qui lui ont été fidèles. Le père de la parabole manifeste sa joie par un repas plantureux. Le veau gras qu'on avait gardé pour une fête. Aujourd'hui, on dirait, ah, je vais ouvrir ma meilleure bouteille de Beaujolais ou de Bordeaux, je ne sais trop quoi, de Bourgogne. Manifestement, Jésus montre la générosité de Dieu. Et cette générosité consiste à réintégrer complètement ce fils dans sa famille d'origine parce qu'il était considéré comme mort et qu'il est revenu à la vie. La plus belle robe, la bague au doigt, les souliers, le veau gras. C'est cela notre Dieu. C'est pas un Dieu à notre image. Et je le répète souvent, la religion a fait du christianisme une religion austère, de Dieu, un Dieu sévère. Mais non, c'est un Dieu généreux. Il a fait de nous des fils et des filles de son royaume. Tout ce qui est à moi est à toi, nous dit-il. Est-ce que nous savons vivre l'amour, le pardon, la générosité de notre Père Céleste? Est-ce que nous savons partager tout cela aussi autour de nous? Sachons nous réjouir ensemble, sachons faire la fête. Il y a plus de joie dans le ciel, dit Jésus, pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. Voilà comment Jésus présente le Dieu de la Bible, le seul vrai Dieu, l'Éternel, le Seigneur, notre Dieu. Amen. Prions Dieu. Seigneur, nous sommes souvent bien en deçà de ce que ta parole nous présente, parce que nous sommes limités, mais parce que nous voulons aussi te limiter. Alors que tu es ce Dieu infini, infiniment grand, infiniment puissant, mais infini aussi dans ton amour, dans ton pardon, dans ton amour pour chacun d'entre nous. Comment, Seigneur, ne pas te suivre? Comment ne pas te dire comme ce fils prodigue, j'ai péché contre toi. Accepte-moi comme l'un de tes serviteurs. Mais toi, tu nous acceptes comme tes fils, comme tes filles, comme tes enfants. Seigneur, aide-nous à saisir dans ta parole ce que nous ne pouvons pas comprendre par notre propre intelligence, par notre propre nature humaine, mais ce que toi, Jésus, tu es venu nous enseigner. Aide-nous aussi, Seigneur, à marcher et à vivre selon ton exemple. Bénis encore ta parole dans nos cœurs. Amen.